Il aida la jeune fille à enlever la cape sous laquelle elle suffoquait. Et Marie eut un regard surpris, reconnaissant, car c'était la première marque d'attention ou simplement de courtoisie qu'on avait pour elle depuis des semaines. « Tiens, une étoffe qui vient de chez moi !» se dit Ptolémée en voyant la robe dont elle était vêtue. Le Lombard était négociant en épices d'Orient, en même temps que banquier. Aussi les ragoûts où il plongeait les doigts avec élégance, les viandes qu'il détachait de l'os délicatement par petits morceaux, étaient imprégnés de senteurs exotiques, apéritives. Mais Marie ne montrait guère d'appétit et se servit à peine des plats du premier service. « Il est à Lyon, » lui dit alors Ptolémée en soulevant sa paupière gauche. « Il n'en peut bouger pour l'heure, mais il pense à vous et vous garde toute sa foi. »«
Serait-il en prison ?» demanda Marie.
« Non, pas précisément. Il est enfermé, mais nullement pour de pénibles raisons. Il partage sa captivité avec de si hauts personnages que nous n'avons rien à craindre pour son salut. Tout m'incite à croire qu'il sortira de l'église où il se tient plus important qu'il n'y est entré.
L'église ? Pourquoi dans une église ?
Je ne puis vous en dire davantage. Marie n'insista pas. Guccio, reclus dans une église en compagnie de gens si importants qu'on ne pouvait les lui nommer, ce mystère la dépassait. Mais ce qui touchait Guccio était toujours empreint de mystère. La première fois qu'elle l'avait vu, n'arrivait-il pas d'une mission secrète auprès de la reine d'Angleterre ? N'était-il pas revenu à Crécy pour cacher des documents puis les reprendre ? Et n'avait-il pas eu à courir par deux fois jusqu'à Naples pour le service de la reine Clémence ? N'avait-il pas reçu de celle-ci le reliquaire de Saint-Jean qu'elle-même à présent portait au cou ? Si Guccio était enfermé à cette heure, ce devait être encore pour la cause de quelque reine. Et Marie s'émerveillait que parmi de si puissantes princesses, il continuait de la préférer, elle, pauvre demoiselle de campagne. Guccio vivait, Guccio l'aimait. Il lui suffisait de le savoir pour retrouver de l'agrément à exister, et elle mordit au plat avec tout l'appétit d'une fille de 18 ans qui avait voyagé depuis l'aube. Ptolémée, s'il pouvait s'adresser avec aisance aux plus hauts barons, aux pairs du royaume, aux légistes, aux archevêques, avait depuis longtemps perdu l'habitude de parler aux femmes, surtout à une femme si jeune. Ils échangèrent peu de propos. Le vieux banquier regardait avec ravissement cette nièce qui lui tombait du ciel et qui, d'instant en instant, lui plaisait davantage. Quelle pitié, pensait-il, de l'aller mettre au couvent. Si Guccio ne s'était pas fait retenir dans le conclave, j'enverrais bien cette belle enfant à Lyon. Mais qui deviendrait-elle, seule et sans appui? Or, les cardinaux, à ce qu'on dit, ne se montrent pas prêts de céder. Ou bien la garder ici en attendant le retour de mon neveu. Voilà qui me sourirait, mais non, je ne le puis. J'ai demandé à Bouville d'agir en sa faveur. Quelle figure aurais-je maintenant à négliger la peine qu'il s'est donnée? Et s'il abaisse en plus ses cousines des Crécy et qu'il vienne à ses nigauds l'idée de lui demander nouvelles? Allons, que la tête ne me tourne pas à moi aussi. Elle ira au couvent. Mais pas pour toute la vie, dit-il en continuant à haute voix. Il n'est pas question de vous faire prendre le voile. Acceptez sans trop de plaintes ces quelques mois parmi les nonnes. Je vous promets, quand votre enfant sera né, d'arranger vos affaires pour que vous viviez heureuse avec mon neveu. » Marie lui saisit la main et y posa ses lèvres. Il en fut gêné. La bonté n'était pas dans sa nature et son métier l'avait peu habitué aux expressions de gratitude. « Il me faut maintenant vous remettre aux soins du comte de Bouville, » dit-il. « Je vais vous conduire à lui. » De la rue des Lombards au palais de la Cité, la route n'était pas longue. Marie l'a parcourue aux côtés de Ptolémée dans un état de surprise émerveillée. Elle n'avait jamais vu de grande ville. Les mouvements de la foule sous le soleil de juillet, la beauté des maisons, le nombre et la profusion des boutiques, le scintillement des étalages, tout le spectacle la transportait dans une sorte de féerie. Le bonheur, se disait-elle, que de vivre ici, et quel homme aimable est l'oncle de Guccio, et quelle bénédiction qu'il veuille bien nous protéger. Oh oui! Comme je subirais sans me plaindre le temps du couvent. » Ils passèrent le pont au change et entrèrent dans la galerie mercière encombrée de ses éventaires. Ptolémée ne put s'empêcher, pour le plaisir de s'entendre encore remercier, d'acheter une aumônière de ceinture brodée de petites perles qu'il offrit à Marie. « C'est de la part de Guccio, il faut bien que je le remplace. » Ils s'engagèrent ensuite dans le grand escalier du palais. Ainsi d'avoir fauté avec un jeune Lombard, valait à Marie de Crécy de pénétrer dans la demeure des rois. Il régnait à l'intérieur du palais cette agitation, cet affairement réel ou simulé qu'on remarquait en tout lieu où se trouvait le comte de Valois. Ayant franchi galeries et salles en enfilade où se pressaient, se croisaient, s'interpellaient chambellans, secrétaires, officiers et solliciteurs, Ptolémée et la jeune fille parvinrent dans une partie un peu retirée derrière la Sainte-Chapelle et qui donnait sur la Seine et l'île aux Juifs. Une garde de gentilshommes en cotte d'armes leur barra le passage. Nul ne pouvait pénétrer dans les appartements réservés à la reine Clémence sans l'autorisation des curateurs. Tandis qu'on allait chercher le comte de Bouville, Ptolémée et Marie attendirent dans l'embrasure d'une fenêtre.
« C'est là, voyez-vous, qu'on a brûlé les Templiers, » dit Ptolémée en désignant l'île.
Le gros Bouville arriva, toujours équipé en guerre, la bedaine roulant sous l'étoffe d'acier et le pas décidé comme s'il allait commander un assaut. Il fit écarter la garde. Ptolémée et Marie traversèrent une première pièce où un vieillard desséché, vêtu d'une robe de soie et la peau tavelée comme un parchemin, dormait assis dans une cathèdre. C'était le sénéchal de Joinville. Deux écuyers auprès de lui jouaient silencieusement aux échecs. Puis les visiteurs passèrent dans le logement du comte de Bouville.